fait, il y a besoin d'être collectif.
Comment cohabitent des gens tellement différents et sans police, sans loi? Ça, c'est le sujet vraiment passionnant de ce qui se passe ici. Moi, ça a révolutionné ma pensée, quoi.
Ce qu'on vit ici, ça démontre déjà ce qu'on veut. Que la lutte et la vie soient liées. Il n'y a pas d'idéal théorique comme je le pouvais avoir avant, où je pouvais aspirer à un monde un peu parfait, démocratique, où on serait tous bien et où il n'y aura pas de violence, et qui est une vision très naïve, en fait. Ici, ben, je trouve la vie est paisible. Moi, je me sens vraiment bien ici, quoi. Je me sens en sécurité, bien entouré. Il y a des problèmes, parce que dans la vie, il y a toujours des problèmes, mais c'est plutôt une vie chouette ici. Quand j'entends qu'il y a des gens des bourgs alentours qui n'osent pas traverser la ZAD parce qu'ils ont peur, ça me fait drôle. Je suis plus apaisé parce que j'ai trouvé des façons d'agir, j'ai trouvé des camarades. J'ai pas l'impression d'être impuissant face à la catastrophe du capitalisme et du monde de l'économie. Un enjeu aussi qui est important, c'est de mêler la lutte avec la joie de vivre et de lutter. Les mouvements de lutte qui sont dans des logiques d'émancipation collective, eh ben c'est des mouvements qui aspirent à la vie, pas à la destruction ou à la mort, contrairement à l'étiquette qu'on voudrait nous faire porter. Dire qu'on est violent, moi, ça me paraît très très bizarre.
Salut les amis et bienvenue à vous dans cette émission qui s'ouvre avec les mots de cet habitant de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes rencontré en 2016. Cette ZAD, une galaxie de militants unis contre un grand projet inutile d'aéroport, est son monde. Mais ces zadistes de Notre-Dame-des-Landes, tous différents et parfois très éloignés les uns des autres, comment ont-ils donc fait pour faire société, tenir et s'organiser dans le bocage pendant plus de 10 ans, sans police, sans tribunal, sans hôpital et sous les attaques policières? Plus globalement, on va aujourd'hui parler d'écologie radicale. On va causer désobéissance civique, d'actions non violentes et aussi de l'usage éventuel de certaines formes de résistance ou de légitime violence. Violence en réaction à la violence du système capitaliste qui s'est chez nous déguisé en démocratie. Comment sauver le biotope de l'être humain alors qu'il est déjà si tard? Alors vous avez d'une part les faux verts qui vous disent que l'écologie serait compatible avec l'économie de marché, et puis vous avez aussi tous ceux qui ont très bien compris que l'écologie est par nature anticapitaliste. Puisque c'est bien au nom du système capitaliste qu'on détruit notre environnement pour générer des profits à court terme au bénéfice d'une minorité qui pille et assassine la majorité pour faire du fric. Nous venons tout juste d'entrer dans l'ère de l'anthropocène. Comment sortir du capitalocène? On en parle aujourd'hui pendant une heure autour de deux articles du Monde Diplomatique. En deuxième partie d'émission, on vous lira ce papier intitulé « Les écologistes tentés par l'action directe ». Et tout de suite, autre article, celui-ci signé Frédéric Lordon, intitulé « Et la ZAD sauvera le monde ». Papier commenté par les copains profs d'histoire géo, Cédric et Daniel. Salut Cédric.
Salut.
Salut Daniel.
Bonjour.
Dans le Monde Diplomatique, édition octobre 2019, cet article de Frédéric Lordon, l'économiste notamment, « Marier réalisme et utopie, et la ZAD sauvera le monde ». Pour en finir avec l'ordre capitaliste, certains se proposent de généraliser les défections individuelles et locales du type des communautés autogérées ou des zones à défendre. Un tel remède menace ceux qui le prônent de rester minoritaires et isolés. Toutefois, une multitude de décrochages individuels pourrait aussi diffuser l'envie d'un renversement de masse en employant d'autres moyens. ZAD, dans la terminologie officielle, c'est « zone à développer » que les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ont détourné en « zone à défendre ».
Un article extrêmement stimulant, puisqu'il nous invite à nous poser des questions sur des formules souvent un petit peu toutes faites, dont on veut se convaincre. Et là, ça nous oblige à réfléchir et l'article n'est pas manichéen. Il nous invite sur plusieurs pistes. L'auteur a sa conclusion, mais conclusion qu'on peut partager soit totalement, soit partiellement, soit qu'on peut contester. Pourquoi ? Parce qu'il nous offre aussi des arguments qui va relativiser sa thèse. l'auteur, Frédéric Lordon, commence par une citation de George Orwell.
L'auteur de 1984.
C'est l'auteur de 1984, c'est un homme qui a été brigadiste international, c'est un homme qui a fini sa vie en cultivant son petit jardin dans une cabane complètement isolée, alors qu'il était déjà une star mondiale. Et George Orwell, question que pose Frédéric Lordon, est-ce que George Orwell aurait été un zadiste ? Alors, deux extraits de George Orwell. Je suis un semi-intellectuel décadent du monde moderne, et j'en mourrais si je n'avais pas mon thé du matin et mon New Statesman chaque vendredi. Manifestement, je n'ai pas envie de revenir à un mode de vie plus simple, plus dur, plus frustre et probablement fondé sur le travail de la terre. Donc il n'aurait pas été un zadiste. Sauf qu'il ajoute plus loin. Mais, en un autre sens plus fondamental, j'ai envie de tout cela, de revenir à un mode de vie plus simple, plus dur, plus frustre, et peut-être aussi en même temps d'une civilisation où le progrès ne se définirait pas par la création d'un monde douillé à l'usage de petits hommes grassouillés. Alors, George Orwell ici met le doigt sur une vraie contradiction que nous avons tous, je pense. À savoir que nous avons conscience que les problèmes environnementaux et socio-économiques sont engendrés par le système capitaliste.
Attends, il y a des gens pour qui ça coule pas du tout de source. Je pense par exemple au hasard, au leader d'Europe Écologie des Verts, Yannick Jadot, qui il n'y a pas très longtemps a déclaré que bien sûr, à Europe Écologie des Verts, nous pensons que l'écologie est tout à fait compatible avec l'économie de marché. On ne va pas quand même revenir aux sauf-causes.
Là, Orwell, il met le doigt sur quelque chose de vraiment important. Nous sommes dépendants. Et ponctuellement, nous sommes attachés effectivement à ce système capitaliste qui nous apporte des biens et des services qui nous permettent de vivre effectivement de façon confortable. Et donc effectivement, la remise en cause du capitalisme, c'est aussi la remise en cause de petits éléments de notre vie qui nous font plaisir, qui nous donnent du plaisir. Et donc, on a du mal à se projeter dans un projet dans lequel effectivement, il faudrait renoncer tout ou partiellement à une partie de ce confort.
Pour ceux qui peuvent y accéder parce qu'ils en ont les moyens financiers, il faut quand même préciser ça.
Allez, c'est pour compte de la croissance qui représente à peu près les trois quarts de la planète, rappelons-le, qui n'ont accès ni à l'eau potable, ni à l'éducation, ni à un habitat correct. Alors, révolution ou ZAD ? Ce que dit Frédéric Lordon, c'est que la ZAD, en fait, ce sont des révolutions microscopiques de l'ordre de l'individu ou de petits groupes d'individus qui ne portent pas une solution macroscopique. La multiplication de ces ZAD ne porte pas en soi un changement global et même leur agglomération ne peut pas porter ce changement global. Même si on éprouve de la compréhension, de la sympathie vis-à-vis d'un certain nombre de mouvements auxquels nous pouvons apporter notre soutien, très clairement, ils ne menacent pas le capitalisme. Parce que leurs propres règles de chacun de ces groupes ne se pensent pas dans une globalité. Il n'y a pas de pensée globale. Et ce mouvement, comme le dit Frédéric Lordon, est voué à la décomposition et finalement à l'échec. Il ne fait pas de parallèle historique, mais effectivement, on peut penser à des choses qui ont déjà existé dans le passé. Par exemple, si on prend l'exemple des phalanstères, ce que Marx désignait de façon très dédaigneuse en disant que c'était des socialismes utopiques, on a vu des expériences concrètes, effectivement, qui peuvent s'assimiler à des formes de ZAD, c'est-à-dire de se retirer du monde capitaliste en disant « nous n'arriverons pas à le changer et nous allons créer » avec des gens volontaires, un contre-système dans lequel nous allons pouvoir évoluer selon nos règles. Eh bien, on voit que les phalanstères ont été globalement des échecs, soit directs, soit au bout d'une à deux générations, ça ne fonctionne pas.
Alors, peut-être revenir sur ce qu'étaient les phalanstères. Moi, je pense notamment à celui de Gaudin, les poils Gaudin, à Guise. Et en fait, c'était une micro-société ouvrière, enfin de plusieurs centaines de personnes. Et il y avait des habitats, il y avait une épicerie. Il y avait...
Entièrement
et...
tout géré.
Et puis même les prémices de la sécurité sociale. Alors que là, on est au 19e siècle. Alors, c'est très... critiquable, hein, parce qu'il y a ce côté patron paternaliste à la Jules Verne et cette science omniprésente qui va tout solutionner. Mais en fait, les gens, les ouvriers qui vivent dans le phalanstère des poils Gaudin vivent à certains égards avec un confort, enfin, l'eau courante, des choses qui étaient inimaginables, même pour des habitats bourgeois de l'époque.
Avec l'éducation des enfants, par exemple, qui était assurée à une époque où les enfants allaient travailler dès le plus jeune âge.
Un familistère de Guise, chez le père Gaudin, qui invente aussi les prémices, non seulement de la sécurité sociale, mais aussi de la retraite, ce qui est un truc de malade pour le 19e siècle.
Et on voit d'autres expériences, d'autres penseurs du socialisme, hein, notamment Fourier, etc., où l'on voit des réalisations qui n'arrivent pas à s'enraciner et surtout qui ne font pas école. C'est-à-dire que ça ne va pas se diffuser, même si ça fonctionne pendant une ou deux générations. En fait, le projet va s'étioler de lui-même et surtout n'arrive pas à contaminer le reste de la société. On pourrait évoquer, d'une certaine façon, les premiers kibbutz qui avaient mis en place un système dans lequel, alors un système laïque, un système dans lequel il n'y avait pas de monnaie. Les gens, en fait, qui rentraient dans les kibbutz, c'était volontaire. Ils voulaient le faire. Sauf qu'à la première génération, une fois qu'ils ont eu des enfants, ben les enfants, ils n'avaient pas forcément envie de rester dedans. Et on a vu une décrépitude du kibbutz avant son instrumentalisation par l'État d'Israël pour d'autres buts, notamment des buts militaires.
Kibbutz, c'était ces espèces de communautés agricoles qui avaient dans les premiers temps de la création d'Israël.
Même la création d'Israël, quand le mouvement sioniste véritablement se met en place à la fin du 19e siècle et surtout au début du 20e siècle, on voit que à long terme, il y a l'idée de créer un État, mais à court terme, ils veulent créer un État très différent, justement, qui s'est débarrassé des stéréotypes du juif, qui aime l'argent, etc. Justement, là, il n'y a pas d'argent, on ne fait que du travail manuel, et on se fixe ses propres règles dans une pensée très laïque. C'est aussi la pensée d'un juif moderne, dégagé, vous voyez, de l'étude de la Torah, etc., etc. Et on voit ces groupes qui se donnent un vrai idéal qu'on pourrait qualifié d'une certaine forme d'anarchisme, enfin d'autogestion.
De socialisme, de pratique socialiste.
Socialiste.
Daniel. Oui, d'ailleurs, le père de Netanyahou, l'actuel Premier ministre, a débarqué en Israël au tout début. Il est reparti très vite parce qu'il a dit c'est un État socialiste. Donc il s'est tiré.
Les kibbutzines, effectivement, avaient une dimension socialiste. Ça fait partie des mouvements, effectivement, sionistes, socialistes. Hein.
Quand on dit socialiste, il faut bien faire attention. Ce n'est pas du tout au sens parti socialiste à l'européenne ou à la française. C'est des tentatives d'organisation socio-économique affranchies des règles du capitalisme ordinaire.
C'était bien de le préciser. Ce n'est pas François Hollande avec des papillotes.
Ah, t'imagines la scène avec la musique de Rabbi Jacob. Et Julie Gaillet, la chorégraphie, ça pourrait péter. Alors, on pourrait aussi parler des mouvements hippies dans les années 60, où l'on a vu des communautés, là aussi, sortir de la société ordinaire, s'affranchir des règles et créer leurs propres règles avec un retour au travail manuel, etc. Donc on a vu que des communautés hippies ont pu se maintenir pendant plusieurs années, mais là aussi, hein, très souvent, elles ont périclité avec parfois des parcours très singuliers, hein, des membres qui ont été hippies et parfois qui ont fait des retours à 180 degrés et qui sont devenus des libéraux pur jus. L'auteur évoque quand même l'IP. Alors l'IP, c'était des montres.
C'est une usine autogérée.
Le patron, soit il avait fait faillite, soit c'était un patron plus ou moins escroc.
Dans les années 70.
On est post-68, début des années 70. L'usine est plus ou moins en faillite. Et les salariés, les ouvriers de cette usine de montres, les montres LIP, qui sont des ouvriers qualifiés, hein, faire des montres, c'est quand même une spécialisation, décident de continuer la fabrication dans une usine autogérée.
Oui, l'ensemble de la classe ouvrière vous est redevable, camarade Bechelis. Je vous avais montré qu'à l'heure où l'organisation capitaliste du travail éclate, une autre organisation du travail est possible. Il est possible à une collectivité consciente, mobilisée, de vivre une démocratie intense où toutes les phases de l'action sont discutées, décidées et contrôlées collectivement.
Vous avez su démontrer une nouvelle fois que si les patrons n'ont jamais pu et ne pourront jamais se passer des travailleurs, les travailleurs, eux, peuvent parfaitement se passer des patrons.
Et ça va durer longtemps parce que un certain nombre de gens en France et ailleurs achètent les montres par solidarité, mais ça va finir par capoter. Et comme nous sommes dans un état de droit, pour ne pas dire dans un état de droite, le droit a expliqué que l'association ouvrière qui avait mené l'affaire avait volé le bien qui est l'instrument de production. Donc, ce n'était pas de l'autogestion, c'est un vol.
Ce qui est notamment aussi, d'ailleurs, le procès malhonnête qui a été fait aussi aux zadistes. Oui, cette lutte, elle est peut-être sympathique, mais enfin, il y a un gros problème, c'est que les zadistes infraction à la propriété privée. Même si c'est Vinci, celui qui nous a volé les autoroutes, qui est en train de nous enfumer sur l'aéroport de Paris, qui est propriétaire du truc. Ah bah oui, les zadistes, ils détournent de l'eau pour arroser leurs légumes et puis ils squattent. Notre première devise aurait pu être « liberté, égalité, propriété ». Le troisième terme est assez sacré, notamment en France. Je profite du fait que tu aies parlé de LIP, Cédric, pour faire une petite page de publicité pour cette scope. Les salariés de l'entreprise des thés éléphants, la marque éléphant, ont vécu à peu près le même truc. Et ils gèrent leur usine maintenant avec cette marque qui s'appelle 1336. Ce n'est pas une date. Hein. C'est le nombre de salariés qui arrivent à... Là, j'ai une boîte, par exemple, de thé au caramel, absolument succulent. On vous invite vivement à vous faire des infusions et des thés de la marque 1336.
On fait de la pub. Et donc, ensuite, l'auteur dit « Un changement social radical ne révèle pas de quelques héros individuels, mais d'une force collective. Ainsi, les exigences de vie dans une ZAD sont trop importantes, trop difficiles pour fédérer des groupes au-delà d'un petit nombre de gens très convaincus, comme on a pu l'avoir chez les hippies ou dans les kibbutz. Et on ne peut pas générer une force collective parce que l'exigence individuelle de changement de vie aussi radicale n'est pas possible pour le commun des mortels. A contrario, la révolution, comme il l'a défini, est un temps de concentration des énergies politiques de masse, centrée autour de la question politique, qui permet en fait à un groupe beaucoup plus important d'accepter pendant un temps à définir une baisse du niveau de vie matériel et l'acceptation et la redéfinition d'un niveau de vie et de normes matérielles inférieures à ce qu'elles étaient avant à partir du moment où cet abaissement du niveau de vie matériel permet une plus large redistribution à la population. Et donc là, on a l'idée que la révolution est d'abord, voyez, un message politique global peut permettre une meilleure redistribution par l'acceptation collective d'un sacrifice. Actuellement, nous observons effectivement une série de décrochages individuels. Il dit on voit se multiplier des gens qui ne veulent plus de cette société. Il parle même d'une épidémie de désertion. C'est-à-dire de plus en plus de gens qui refusent le système, essayent de se trouver un à côté, de créer quelque chose. Vous voyez peut-être les colibris arriver au vol.
N'essayez pas de nous provoquer comme ça, ça ne marchera pas.
Et donc, il dit que l'annonce du désastre écologique auquel nous allons bientôt être confrontés, on en voit déjà des signes absolument évidents, et que ceux-ci vont s'accélérer, se multiplier et s'amplifier dans les décennies à venir, que ces désastres écologiques pousse de plus en plus de gens à s'interroger sur la validité et la durabilité du système capitaliste. Alors, il ne peut pas s'empêcher un petit trait acide en disant que cette prise de conscience de la bonne bourgeoisie urbaine se fait à partir du moment où elle se sent en danger. Tant que ça frappait les bons ouvriers qui perdaient leurs emplois et qui vivaient dans des conditions absolument terribles, ça ne l'intéressait pas énormément. Et il rappelle que Bourdieu, par exemple, avait analysé que les mesures hygiéniques à Amsterdam au XVIIe siècle furent prises par la bourgeoisie à partir du moment où les épidémies ont commencé à toucher fortement les quartiers bourgeois et qui se sont aperçus que les épidémies ne se concentraient pas uniquement dans les quartiers prolétariens, mais pouvaient effectivement les toucher. On aurait pu faire la même chose, la même comparaison avec le monde colonial, où l'on voit que les colons se préoccupent de vacciner les petits noirs et les petits asiatiques à partir du moment où eux-mêmes sont sérieusement menacés. Donc, il dit d'un ton extrêmement cynique que ce n'est pas le massacre des hommes qui a ouvert les yeux à l'opinion publique, mais le massacre de la planète qui va peut-être le permettre. La conclusion de son papier, la solution est un modèle global qui prendra en compte la réduction des inégalités sociales, la réduction des nuisances environnementales, dans le cadre d'une subversion d'ampleur du système qui ne peut pas s'appuyer uniquement sur des refus individuels et séparés, mais que le combat doit être absolument collectif. Il y a cette formule, hein, le lyrisme des cabanes ne suffit pas. Je n'ai pas de meilleure conclusion à faire que les mots qui vont clore son papier. Le lyrisme des cabanes, des forêts et des zones fouette sans doute nos imaginations, mais ne soutient pas une perspective politique pour le plus grand nombre. Voilà, pour l'ensemble de la population.
Il faut bien commencer quelque part. D'abord, les zadistes, ce que j'aime beaucoup chez eux, chez ceux qu'en tout cas j'ai rencontrés à Notre-Dame-des-Landes, cette lutte contre ce grand projet inutile, c'était contre cet aéroport et son monde. C'est-à-dire que les zadistes, ils se battaient pas que pour un bout de bocage, ils se battaient contre un principe. Il faut bien commencer quelque part, et moi je crois que ça lutte efficacement contre le système capitaliste, parce que ça montre, et moi ça m'a mis du baume au cœur, dans une période épouvantable, affligeante, déprimante, en regardant cette lutte et en allant voir sur place à Notre-Dame-des-Landes, de voir qu'il y avait toute cette petite lumière qui brille dans la nuit noire fascisante qui est en train de tomber sur nous. Il y a des gens qui résistent. Non, on n'est pas tout seul. Et je pense que ce message de dire, bah si, en fait, avec trois bouts de cabane, un pavé, et oui, en détournant un peu d'eau et en squattant un peu, en fait, si, on peut enrayer le système. Il faut bien montrer aux gens qu'on peut commencer quelque part. Je trouve que c'est une menace très pertinente contre le système capitaliste, parce qu'on montre au reste de la population, un, qu'on peut résister, deux, avec succès, trois, en plus, c'est joyeux. Et ce que m'a expliqué un zadiste dans une émission que vous pouvez réécouter sur notre site, là, après avoir parlé pendant 2 heures de politique, de démocratie horizontale, de... J'éteins mon magnétophone et le mec me dit « Attends, rallume ton magnétophone parce que j'ai oublié de te dire l'essentiel. » Et je rallume mon magnéto, il me dit « Bon, on a parlé de politique, de gestion, de machin, de comment ça fait 10 ans qu'on arrive à tenir sans flics, sans justice, sans hôpitaux psychiatriques. » Il m'avait dit « Le plus important, en fait, c'est que notre lutte, elle marche parce qu'elle est joyeuse. Parce qu'il y a de la vie, parce qu'il y a de l'espoir. » Et ça, je trouve que c'est une menace contre le capitalisme et la résignation à laquelle il nous astreint via cette piscopie des médias et compagnie.
C'est pour ça que j'ai initié mon propos, justement en disant que cet article était stimulant. Parce qu'effectivement, je ne suis pas totalement d'accord avec sa conclusion, mais ça nous invite à réfléchir. Vu de l'extérieur, moi je n'ai jamais été zadiste, effectivement on peut avoir l'idée que c'est peut-être un peu folklorique, etc. Mais moi j'y crois beaucoup. C'est intéressant ce papier parce qu'il nous présente les deux choses. Alors l'auteur a son avis. Pour lui, effectivement, c'est pas une solution, ça ne marchera pas. Pour lui, il faut organiser une lutte collective qui passe par des formes plus traditionnelles de lutte, hein, le syndicat, le parti. Mais justement, ça nous invite à nous engager, déjà à refuser l'ordre établi et à nous interroger sur nos modalités d'action, sur leurs limites, sur tout ce qu'on pourrait faire pour sortir du merdier dans lequel on est, quoi. Moi, j'ai des anciens élèves, par exemple, qui ont mis une ZAD à Lille, hein, sur un quartier là, qu'ils sont en train de refaire. J'en ai d'autres qui sont partis à Pontivy, dans une organisation qui s'appelle La Fabrique, un truc incroyable, où ils essayent de vivre en autonomie. Alors, c'est tous des bacs plus 5, en agronomie, etc. Ils essayent de vivre complètement de façon autonome. Et ils savent bien que ils vont pas renverser le monde avec ça. Mais eux, déjà, ils vivent en accord avec ce qu'ils sont, avec ce à quoi ils croient. Et c'est peut-être des pistes.
Il faut bien commencer quelque part, Daniel.
Oui, mais je pense qu'on parle un peu de choses différentes, hein, c'est-à-dire d'aménager une vie individuelle ou collective en accord avec ce qu'on a envie de vivre, avec ses valeurs, avec sa vision du monde et de la vie. Ça, c'est une chose. Et l'autre ambition, la folle ambition, c'est de transformer le monde. Et la question qu'on pose là en 2019, c'est la question qui s'est posée avec l'ère industrielle. Je ne pense pas trop que ça se posait dans les époques précédentes. Et c'est ce qui se posait avant ou un peu avant le milieu du 19e siècle. Et qui opposait les socialistes utopiques et le marxisme. Alors tu as dit que Marx traitait avec mépris les socialistes utopiques. Je ne suis pas trop d'accord là-dessus, mais enfin bon, c'est pas grave. L'utopie n'est pas une injure, hein. Le mot utopie est méprisant dans le vocabulaire des utilitaristes. Et les utilitaristes, c'est d'abord des bourgeois. Une utopie, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Effectivement, on retrouve ceci avec 68, par exemple. L'utopie ou la mort. C'est-à-dire que la vie a besoin de l'utopie. Mais le marxisme est une utopie. Il y a eu tout un tas d'expériences dans tout le 19e siècle, d'expériences d'utopie ou de communautés utopiques. Et elles partent de l'idée que la réalisation de ces communautés vont être un tel exemple qu'il ne faut pas employer en quelque sorte la force, la conquête du pouvoir politique, du pouvoir d'État, etc., que le bonheur et le sourire de ceux qui y participent auront une telle force de conviction que...
La boule de neige fera tomber les dominos.
Voilà, exactement. Sauf que ça ne s'est pas passé. En particulier les fourriéristes, le Fanlanster, hein, ils ont essayé en France, mais ils ont beaucoup essayé de faire ça en Amérique latine, en particulier au Brésil. Ils se disaient, c'est une terre neuve, un peu les kibbutz d'ailleurs, hein, c'est le faire en dehors de la vieille Europe, cette vieille Europe pervertie depuis des siècles par les marchands, les capitalistes, etc. Ils avaient bien compris que nos comportements profonds, intimes, permanents étaient culturellement et historiquement dévoyé, c'est la théorie de Rousseau aussi d'ailleurs ça, dévoyé par la société marchande. Et que pour se donner des chances de réussir, une exigence pure, il fallait aller dans un monde pur. Et pour que le monde soit pur, il faut que ça soit le nouveau monde.
Rappelons aussi qu'il y a des tas de conquêtes sociales, celles qui sont d'ailleurs actuellement détruites. Être payé sans travailler, c'est-à-dire la retraite, ou arrêter de faire travailler les enfants, ou le vote des femmes, tout ça, ça a été pendant très longtemps des utopies. Bah, y a eu des luttes sociales et ces utopies sont devenues des réalités. Je voudrais te reprendre, Cédric, quand tu dis « moi, je suis pas un zadiste », je suis pas du tout d'accord avec toi, mon copain. Toute la bande qu'on est là autour de ce micro, et vous particulièrement les profs d'histoire géo, vous êtes des zadistes de l'enseignement, vous êtes des zadistes de l'histoire. Zone à défendre. Autour de ce micro et dans vos cours, vous défendez une conception de l'histoire honnête. Alors je sais que l'honnêteté c'est un concept très fluctuant, hein, mais en tout cas une méthodologie. Chez vous l'histoire ça se fait pas avec des opinions, ça se fait pas avec des a priori. L'histoire c'est une science humaine qui répond à une méthodologie, ça se fait avec des sources, ça se fait avec rigueur. Malgré les réformes, malgré les coups de boutoir contre cette pauvre école que vous tenez et que vous avez tenu à bout de bras comme vous avez pu, vous avez dans vos classes et à ce micro... Vous continuez à entretenir une ZAD de l'histoire.
La maison, elle est la fontaine, couverte de vigne vierge et de toile d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance. L'éternité. Autour, il y avait le silence. Les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé. On se baignait tout nu, tout noir, avec les petites filles et les canards. HLM a fait place à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré. L'essence, la guerre, la société. C'est pas si mal, et c'est normal, c'est le progrès.
On parle toujours d'écologie radicale pour la seconde partie de cette émission qu'on poursuit maintenant avec la lecture de cet article paru dans Le Monde diplomatique de novembre 2019. Un article intitulé « Les écologistes tentés par l'action directe ». Très bon papier qui vous propose un panorama très complet des différentes formes de lutte relevant de l'écologie plus ou moins radicale. Comment s'organiser? Avec qui? Pourquoi faire? Et jusqu'où aller dans la radicalité, la résistance, la violence, même si c'est légitime? Alors plutôt que de paraphraser cet article, autant vous le lire en entier. C'est un peu long, mais ça vaut le coup. Des militants en quête de stratégie, les écologistes tentés par l'action directe. Depuis plusieurs mois, les militants écologistes multiplient les coups d'éclat. Le durcissement concerne autant leurs modalités d'action que leurs projets politiques. Ils ne croient plus la préservation de l'écosystème compatible avec le modèle capitaliste de croissance. Cette nébuleuse saura-t-elle pour autant se rapprocher d'autres luttes et s'entendre sur des stratégies susceptibles de renverser l'ordre établi ? Un article de Claire Lecoeuvre, journaliste. Décrochage du portrait du président de la République, grève pour le climat, blocage de sites d'Amazon, de Monsanto ou de BNP Paribas, actions locales tous azimuts, pas une semaine ne se passe sans un coup d'éclat mené au nom de la défense de la planète. De nombreuses personnes qui n'avaient jamais milité auparavant s'investissent et bousculent les organisations traditionnelles comme Greenpeace, les Amis de la Terre, ATTAC ou France Nature Environnement. Toutes se disent radicales, c'est-à-dire en premier lieu attachées à prendre les problèmes à la racine, au cœur du système économique et social qui les engendre. Nous sommes un mouvement radical dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire pour un changement profond avec une critique radicale du système capitaliste, explique M. Gabriel Mazzolini. En décembre 2018, ce militant chargé des mobilisations au sein des Amis de la Terre a été placé en garde à vue lors d'une action non violente devant le siège de la Société Générale, accusé de soutenir les énergies sales. Cette radicalité s'exprime à des degrés très divers, selon deux axes qui peuvent se confondre, mais aussi diverger. Celui de la faim, du projet politique, et celui des moyens d'action. Des mouvements comme Greenpeace ou davantage encore Sea Shepherd peuvent mener des opérations très audacieuses, notamment contre les pétroliers ou les chasseurs de baleines, tout en portant un projet de société réformiste, voire indifférent aux questions sociales. Si peu de militants écologistes sont issus de milieux populaires, ces questions ne sont plus ignorées. Les gens voient bien qu'il y a un rapport entre la surexploitation de la planète par de grosses multinationales et les inégalités sociales, estime le sociologue Albert Augien au Centre d'études des mouvements sociaux du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Aujourd'hui, l'écologie n'est plus distinguée des problèmes sociaux. Par ailleurs, faire émerger d'autres solutions, d'autres modèles, apparaît nécessaire, mais plus suffisant. On a essayé de changer au quotidien, de faire des plans avec les mairies, les collectivités, on a fait des marches, rien n'a bougé. J'ai ressenti la nécessité d'agir au-delà de ce qu'on avait déjà fait, résume Madame Anne-Sophie Trujillo. Cette militante d'Alternatiba et d'Action non-violente COP21, ANV COP21, a écopé de 500 euros d'amende avec sursis pour avoir décroché le portrait de Monsieur Emmanuel Macron dans une mairie de l'Ain. Début octobre, 51 militants étaient poursuivis pour vol en réunion après avoir participé à ces décrochages. Deux ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Lyon qui a reconnu un état de nécessité dû à l'inaction de l'État contre le réchauffement climatique. Le procureur a fait appel. D'autres militants ont été condamnés pour les mêmes faits. Tous prônent la désobéissance civile. En réalité, il s'agit plutôt d'une forme non violente d'action directe. Lors d'actions de désobéissance civile, une personne décrète en toute conscience qu'elle ne veut pas respecter une loi, explique Albert Augien. Elle dit « Arrêtez-moi, mettez-moi en prison, faites-moi un procès et je vous expliquerai pourquoi je trouve cette loi mauvaise. » Si cela marche, cette loi va changer. Les actions d'extinction-rébellion, comme l'occupation des ponts de Londres, les décrochages de portraits du président ou les campagnes contre le nucléaire ne visent pas une loi précise. L'arrivée de ces nouveaux militants donne une plus grande ampleur à certaines actions. En Allemagne, chaque année, le collectif Ende Gelände bloque durant une journée l'immense mine de lignite à ciel ouvert de Garzweiler, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Après avoir réuni 1500 personnes lors de la première mobilisation en 2015, le collectif en a rassemblé entre 5000 et 6000 en 2019, réussissant à empêcher la mine de tourner pendant 45 heures. Si les convergences avec les marches pour le climat ont eu lieu dans de nombreuses petites villes, le soulèvement des « gilets jaunes » a mis en lumière une fracture sociale éclatante à Paris. Gilets jaunes de Villefranche-sur-Saône, sensible depuis longtemps à l'écologie, M. Jérôme Cassio raconte sa journée du 16 mars 2019. On revenait des Champs-Élysées où c'était quasiment la guerre, et on arrive place de la République où la marche du siècle pour le climat arrivait. Le contraste était tellement choquant au niveau visuel, olfactif. Je me suis dit, là, c'est le monde des bisounours et des bobos. Ils ne veulent pas voir ce qui se passe à côté. On était peut-être une trentaine de gilets jaunes à ce moment-là, et on était transparents. Personne ne nous regardait. Monsieur Mathieu Bourbonneux, gilet jaune à Nantes, nuance. Certains groupes d'écolos plus radicaux ont préféré manifester directement avec les gilets jaunes, qui ne sont pas dans la négociation, mais pour un changement de régime. Président des Amis de la Terre, M. Khaled Gaïdji l'avoue humblement. On a raté ce rendez-vous. On a mis du temps à réagir. Il y avait un peu le syndrome bonnet rouge, avec la peur de l'extrême droite. Et c'était pas facile aussi, car les gilets jaunes étaient dans des lieux où nos militants n'étaient pas. On a essayé de corriger le tir. Depuis avril, il y a des rapprochements. Mais il y a une question de code culturel. Ce n'est pas naturel. On fait connaissance. Ce rendez-vous raté souligne également la fracture entre deux visions de l'écologie. Les mouvements qui se réclament de la nature ont toujours été très divers. Mais en majorité, ils n'intègrent pas de discours sur le progrès social, explique Valérie Chanzigo, historienne des sciences et de l'environnement. On trouve des communautés réactionnaires, les spiritualistes par exemple, dont le discours se base sur la nature mais n'est pas porteur d'émancipation. Les colibris, l'anthroposophie sont dans cette lignée-là. Or, si l'influence de l'anthroposophie est largement méconnue, elle est peut-être plus importante que celle des mouvements révolutionnaires. Le « ni droite ni gauche » que certains revendiquent fièrement traduit leur méconnaissance des luttes sociales. Les écologistes qui partent à La République en marche viennent de ce courant. Nombre de militants des Amis de la Terre qui avaient organisé la candidature de René Dumont à l'élection présidentielle en 1974 se sont retranchés dans le réformisme. Ironie du sort, si autrefois ils se disaient décroissants, voire libertaires, ils croient aujourd'hui en un capitalisme vertueux. Il faut abandonner les idées de grand soir et regarder comment on peut faire au niveau réglementaire, estime par exemple M. Yves Lenoir, militant de la première heure aux Amis de la Terre et à Greenpeace. Il faudrait un capitalisme dans lequel les priorités sont écologiques. Il ne faut pas penser en termes d'inégalité, sinon on va dans le mur. Pour des raisons historiques, il y a des gens qui ont de l'argent. Ce qui compte, c'est ce qu'ils font de cet argent. Une autre vision de l'écologie a émergé dès les années 70. Aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons se développe une critique plus radicale qui articule une préoccupation environnementale avec une dénonciation de plus en plus forte du système capitaliste, explique Fabien Carrier, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Les mouvements britanniques comme le Front de libération des animaux, ALF, et le Front de libération de la Terre, ELF, se distinguent en acceptant aucune forme de hiérarchie entre les êtres vivants. Ces groupes anarchistes et anticapitalistes promeuvent l'action directe et contestent le réformisme des autres. Dans ALF, puis dans ELF, reprend Chanzigo, on retrouve une réelle critique du capitalisme. Cependant, ils restent marginaux, non pas tant par leur nombre que par leur positionnement. Ces militants ont tendance à se soustraire à la société. Cela donne les mouvements punk et diverses communautés. Ils peuvent se battre contre la société sans s'y mêler, sans intégrer des syndicats dans les entreprises, par exemple. Cette galaxie préfigure la ZAD, zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Les ZAD, c'est de l'action directe, c'est-à-dire transformer sa vie de façon radicale pour se mettre en cohérence. Dans les ZAD, toutes les dimensions de la vie, ou presque, sont impliquées. Il y a aussi une vraie mise en danger, complète Jean-Baptiste Combi, sociologue, maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon Assas. Il faudrait une désobéissance très poussée. La critique de l'écologie réformiste, des colibris ou de l'explosion du développement personnel anime de nombreuses publications comme le site Terrestre ou les journaux La Décroissance et Silence. Cette mouvance plus révolutionnaire dénonce les élus, y compris ceux d'Europe Écologie Les Verts, qui retournent leur veste pour accéder à des postes de pouvoir. Elle oppose la construction d'un collectif agissant à des égaux peu en mesure d'agir ensemble et en définitive non politisés. Les nouveaux militants, tant ceux de Youth for Climate que d'Extinction Rébellion, condamnent d'ailleurs sévèrement les manœuvres politiciennes et veillent à éviter toute forme de récupération partidaire. On est complètement apartisan, explique M. Marin Bisson, 16 ans, de Youth for Climate à Lyon. On essaye de rester loin des partis politiques pour ne pas leur être assimilés. On veut montrer que les jeunes se lèvent pour leur avenir. Tout le monde en interne n'est pas d'accord sur la ligne politique. Pour Antoine, de Youth for Climate à Paris, la voie politique n'est pas non plus totalement à oublier. C'est un mode d'action à ne pas sous-estimer, même s'il ne faut pas croire qu'elle va nous sauver. Moi, je pense que créer des liens avec des militants qui sont dans des partis écolos peut être une force supplémentaire. Certains écologistes souhaitent utiliser le système électoral pour organiser des communes autogérées. Le collectif pour une transition citoyenne, avec en particulier le mouvement Utopia et l'organisation Démocratie ouverte, propose de créer des listes participatives pour gagner des mairies lors des municipales de 2020. La redécouverte de penseurs comme Élisée Reclus de l'écologie sociale et du municipalisme libertaire de Murray Bookchin, ou encore de l'écologie politique d'André Gorz, favorise une réappropriation des concepts de lutte des classes et d'inégalité sociale par une génération que le confort et la consommation à outrance avaient dépolitisé. Alternatiba, alternative en basque, qui est née en 2013, se mobilise contre le dérèglement climatique, s'inscrit au cœur de cette contradiction entre la nécessité d'élargir la base en s'ouvrant à des catégories sociales peu militantes et la volonté de bâtir un projet de société radicalement différent. Avec les villages des alternatives, on observait un discours consensuel qui ne désignait pas d'adversaire, sans analyse structurelle, décrivent Nicolas Brusadelli et Yannick Martel, sociologues qui suivent ce mouvement depuis 2014. Ils ont réussi à rassembler dans un même endroit des gens qui ne sont d'accord sur rien, mais qui ont les mêmes modes de vie. Quasiment tous les membres d'Alternatiba sont issus des classes moyennes. C'est dépolitisant pour les militants altermondialistes, mais c'est très politisant pour des gens qui viennent de beaucoup plus loin, comme les cadres de l'industrie. Ces personnes, en entrant dans Alternatiba, entament un processus au cours duquel elles vont foutre en l'air leur vie, rompre en partie avec leur famille. Ce processus de politisation leur fait remettre en question leur vision habituelle des mouvements sociaux. Dans un second temps, la naissance d'ANV COP21 permet d'aller vers des formes d'action plus concrètes et de rompre avec le militantisme de dossier que pratiquent les grosses organisations. Le soulèvement de l'automne dernier a bousculé les écologistes les plus réformistes. Les Gilets jaunes ont réintroduit la question du rapport de classe. C'est la première étape pour la politisation, analyse Combi. Même le réalisateur Cyril Dion, initiateur avec Pierre Rabhi du mouvement des Colibris, soutient aujourd'hui publiquement les Gilets jaunes et explique qu'il ne croit pas du tout en la capacité des institutions actuelles à se transformer pour résoudre la crise écologique. L'urgence sociale rencontre une urgence écologique chaque jour plus criante. Les slogans d'Extinction Rébellion et son logo, un sablier dans un cercle figurant la planète, résument la situation. Le temps presse. En son sein, des débats ont lieu sur une sortie du capitalisme et de la civilisation industrielle. De nombreux militants souhaitent aller plus loin dans l'action directe et ont développé une critique des fausses solutions. En témoignent les vives critiques adressées au groupe de Maxime de Rostolan, le fondateur des fermes d'avenir qui promeuvent une agriculture bio, mais productiviste et soutenue par des multinationales de l'agroalimentaire. Le festival L'An Zéro, qu'il souhaitait organiser en août 2019, a dû être annulé après la mobilisation locale, puis celle d'une trentaine de collectifs qui dénonçaient un événement écolo-macroniste. Les instigateurs du festival souhaitaient une convergence pour une transition écologique et démocratique par la voie de solutions innovantes portées par des start-up. Leurs opposants dénonçaient une tentative de détourner l'énergie de militants sincères vers une transition qui ne serait qu'un leurre. Pour les groupes de militants, l'urgence de la situation oblige à élargir la gamme des actions habituelles. Recours juridiques, manifestations, grèves, blocage de lieux publics ou d'entreprises polluantes, réappropriation d'espaces, sabotage... Ils sont de plus en plus nombreux à accepter l'idée d'une diversité des tactiques permettant à chacun d'agir selon sa propre méthode. « Moi, je crois qu'il faut tout », observe Vipulan, 15 ans, membre de Youth for Climate. Des actions de sensibilisation, des marches, des grèves et aussi des actions un peu plus fortes comme des occupations, des blocages. Il y a 2 ans, j'ai fait une formation à la désobéissance civile avec ANV COP 21, raconte Léna, 21 ans, en licence de mathématiques physiques à la Sorbonne et membre de Youth for Climate. Mais on a décidé de créer un collectif d'action directe parce qu'on est beaucoup à ne pas se retrouver dans cette désobéissance civile-là. On se sentait inutile en agissant de manière réformiste. Quand on voit l'histoire du mouvement écolo, c'est assez déprimant. Maintenant, il faudrait être plus créatif, éviter de faire tout le temps les mêmes choses. Pour affaiblir assez le pouvoir et avoir un rapport de force en notre faveur, il faudrait une désobéissance très poussée qui amènerait par exemple à bloquer pendant un certain temps des lieux stratégiques. Cette complémentarité a fait la réussite de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. En 2012, lors de l'opération César, c'est notamment la diversité des tactiques qui a permis la victoire. C'est notre capacité à surprendre qui compte, observe Isabelle F., une habitante de la ZAD et cofondatrice du collectif The Laboratory of Insurrectionary Imagination. Échec du contre-sommet du G7. Malgré la complémentarité des actions, on achoppe toujours sur la question stratégique du recours à la violence. Pour nous, la complémentarité des tactiques produit l'effet grenadine. Imaginez un verre d'eau. Dedans, vous mettez une dose de grenadine, c'est-à-dire une dose de violence. Finalement, tout ce qu'on voit, c'est la grenadine. On perd le bénéfice et le fond de l'action. Nous sommes conscients des rapports de force qui existent et nous ne sommes pas dupes quant à la rigidité du système politique. C'est pour cela qu'il faut massifier le mouvement, explique M. Mazzolini des Amis de la Terre. Cette question du verre de grenadine, c'est un ethnocentrisme de classe, répond Combi. Ce n'est pas parce que les médias dominants dénoncent avec véhémence la casse ou le sabotage que ce point de vue est partagé par tous ceux qui le reçoivent. Mais en réalité, cela invisibilise les autres violences, institutionnelles, policières, etc. Se retrancher derrière une proclamation non-violence peut revenir à nier l'existence d'une violence dissimulée des dominants et d'une violence d'État, policière, qui touche en premier lieu les classes défavorisées. Mutilations, éborgnements, brutalités de toutes sortes, la gravité des atteintes à la personne qui accompagne la répression des Gilets jaunes n'a suscité qu'une émotion limitée en regard d'autres périodes comme lors des manifestations étudiantes de décembre 1986, marquées par la mort de Malik Oussekine. Aujourd'hui, aucun groupe écologiste ne prône le recours à la violence physique. Pour l'ENA, c'est évident. Nous, on n'a simplement pas envie d'être violents envers des êtres vivants, mais il n'y a vraiment pas de limite sur le matériel. Dans les discours les plus radicaux, comme celui du comité invisible, il est surtout question de dégradation matérielle et de sabotage. Dans l'objectif d'une coalition, il faut apprendre à travailler avec des personnes qui ne partagent pas la même vision, estime Chanzigo. Cela signifie savoir s'écouter et se respecter, quelles que soient les opinions de chacun. Camper sur ses positions, s'attacher dogmatiquement à sa stratégie, entraîne des échecs cuisants, comme lors du contre-sommet du G7 au Pays Basque en août 2019. Plus de 50 organisations ont tenté de se regrouper au sein de la plateforme G7-EZ. Les dissensions ont finalement gagné. Presque aucune des actions prévues par la plateforme n'a pu avoir lieu. D'autres actions concertées ont réussi. Ainsi, un peu plus de 2000 militants se sont coordonnés à l'appel de Greenpeace, d'ANV COP21 et des Amis de la Terre pour bloquer les sièges de diverses entreprises, ainsi que le ministère de la Transition écologique et solidaire à la Défense en avril 2019. Le quartier a été paralysé et aucune garde à vue n'a été signalée. Beaucoup de militants précisent qu'un blocage plus long n'aurait pas été accepté par les organisateurs. Il aurait fallu discuter sur place de la suite de l'action. Même problème pour la mobilisation du 21 septembre 2019. Les collectifs Désobéissance Écolo Paris, Youth for Climate ou encore Extinction Rébellion se sont mis d'accord avec des groupes de gilets jaunes pour les soutenir dans l'ouest de Paris, puis pour bloquer des lieux de pouvoir. En parallèle, ANV COP21, les Amis de la Terre, Greenpeace et d'autres ont organisé la mobilisation générale, une marche non violente entre le jardin du Luxembourg et le parc de Bercy. « On ne voulait pas d'un 16 mars bis », raconte Léna de Youth for Climate. Les gilets jaunes ont tendu la main aux autres organisations. Ils souhaitaient faire une manifestation dans des lieux de pouvoir, mais restaient ouverts sur le reste. Alternativa et ANV COP21 semblaient d'accord, mais ont demandé la garantie que la mobilisation soit non violente. Donc évidemment, ça ne marche pas. « On nous demande de renoncer au consensus d'action », réagit M. Etcheverry, cofondateur de Bizi, vivre en basque, puis d'Alternativa. « C'est une question de stratégie. Je suis pour construire un rapport de force qui permette d'arracher des victoires et de renforcer les alternatives qui grignotent le capitalisme. » Pour cela, il faut une massification et une radicalisation. La violence comme la complémentarité violence, non-violence pour nous, c'est une stratégie perdante à long terme face à un ennemi qui a tellement de moyens. Nous n'allons pas nous mêler des stratégies des autres. Je voudrais qu'on nous laisse poursuivre la nôtre. En partie empêchés d'atteindre les Champs-Élysées, de nombreux gilets jaunes ont finalement rejoint la manifestation sur le climat, déplaçant avec eux des forces de l'ordre qui n'ont pas hésité à brutaliser ou à arroser de gaz lacrymogène des familles avec enfants et les manifestants les plus pacifistes. En revanche, l'intervention au centre commercial Italie 2 à Paris le samedi 5 octobre est présentée comme un succès. Un ensemble hétéroclite de militants pour le climat, de gilets jaunes et de jeunes des quartiers populaires ont travaillé ensemble pour bloquer le site pendant 18 heures, jusqu'à l'Assemblée Générale votant le départ vers 4 heures du matin. Ils s'étaient organisés bien en amont et chaque groupe avait sa tâche. Lors de la tentative d'expulsion par les brigades spéciales de la police en début de soirée, le choix collectif a été de permettre la formation d'une barricade par des groupes plus habitués aux affrontements. Ces derniers ont empêché l'entrée des forces de l'ordre et ainsi évité aux militants d'être emmenés. Quand les groupes passent trop de temps à se contredire, l'efficacité générale diminue. Le clivage autour de la violence permet à la machine médiatique de séparer les bons militants des mauvais, au risque qu'on puisse ensuite réprimer les mauvais tranquillement avec des dispositifs sécuritaires de plus en plus durs. Dans un rapport paru en juin 2019 sur la radicalisation des groupuscules d'extrême droite, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale demande l'élargissement des outils de lutte contre la radicalisation à des mouvements tels que les véganes et les anarchistes. Le prisme choisi pour l'enquête était l'ultra-droite, mais nous souhaitions élargir à l'ensemble des groupes ultra. Nous avons donc des préconisations qui peuvent être applicables à n'importe quelle mouvance d'ultra-droite et d'ultra-gauche. C'est-à-dire à toute association qui remet en cause les fondements de la République, explique M. Adrien Mornas, député La République En Marche et rapporteur de cette commission d'enquête. Il y a une mouvance violente d'ultra-gauche indéniable. Au niveau de l'écologie, il s'agit de groupes autour de l'élevage et de la viande. S'il précise ne pas viser tous les véganes, il considère que même les actions visant à désigner pour blâmer relèvent de la violence. La sphère de ce qui est permis en matière de politique et de militantisme se réduit de plus en plus, analyse Vanessa Condaccioni, maîtresse de conférence à l'université Paris 8. On ne supporte plus que les gens expriment une revendication si elle ne passe pas par des formes pacifiques et légalistes, comme le vote. On va tout de suite ranger certaines formes de lutte dans la radicalité, dans la violence. La radicalisation militante signifie le passage de méthodes d'action légales à des actions illégales qu'on assimile aujourd'hui au terrorisme. Le pouvoir cherche dans son appareil législatif les moyens de réprimer un mouvement auquel il ne veut pas répondre, d'où la loi sur les casseurs. Dans l'histoire, les dispositifs de répression ont été déployés pour l'extrême droite, puis tout de suite appliqués à l'extrême gauche. Les réponses ne sont plus politiques, elles sont répressives. Les leçons de Crémalville. Diviser, puis réprimer. La méthode a déjà brisé nombre de mouvements écologistes. Dès juillet 1977, la lutte contre le projet de surgénérateur au plutonium superphénix à Crémalville, en Isère, a ainsi atteint son paroxysme. Tandis que la presse mettait en avant la présence de hordes d'Allemands radicaux, plusieurs dizaines de milliers d'écologistes venus de toute l'Europe étaient confrontés à une interdiction de manifester et à une répression féroce, avec notamment l'emploi de grenades offensives. Bilan, de nombreux blessés, un mort, Vital Michalon, et l'essoufflement de la mobilisation antinucléaire en France. Le surgénérateur a été construit et il a rencontré de nombreux déboires techniques. Après une guérilla juridique, les Verts ont obtenu son démantèlement dans le contrat de gouvernement passé en 1997 avec M. Lionel Jospin, Premier ministre de la gauche plurielle qui rassembla socialistes, écologistes et communistes jusqu'en 2002. Au Royaume-Uni, à partir de 2001 et des lois antiterroristes, l'ALF et les groupes qui luttaient contre les laboratoires d'expérimentation animale ont été décapités, rappelle Carrier. Leurs dirigeants ont fait de la prison. Les militants n'avaient pas le droit de franchir un certain périmètre autour des laboratoires. L'échec du contre-G7 fait réfléchir. Il est important d'être dans une vraie composition, d'accepter de faire des choses avec des personnes différentes venues d'autres luttes, estime Isabelle F. Il faut une mobilisation générale, mais tout le monde n'a pas besoin d'être sur la ligne de front. Il faut des gens qui font à manger, qui organisent. Attention cependant à ne pas exiger des résultats immédiats. Le mouvement anti-route en Angleterre a perdu toutes les batailles sur telle ou telle route. Pourtant, il est devenu tellement fort, cela coûtait si cher d'expulser chaque fois tout ce monde que le gouvernement a finalement annulé un programme incluant 300 routes. L'essayiste Rebecca Solnit a écrit « Le lien de cause à effet suppose que l'histoire avance, mais l'histoire n'est pas une armée. C'est un crabe qui marche de côté, une goutte d'eau qui use la pierre, un tremblement de terre qui brise des siècles de tensions. Le rapprochement entre Extinction Rébellion, divers groupes de Gilets jaunes et de Youth for Climate semble participer de cette coalition en construction. Le crabe pourrait-il se mettre à pincer fort ? Les écologistes tentés par l'action directe, un article de la journaliste Claire Lecoeuvre à lire dans Le Monde diplomatique de novembre 2019. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui autour de ce thème de l'écologie radicale. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site, polemixetlavoixoff.com, ou vous pouvez aussi réécouter notre série sur l'Anthropocène et le Capitalocène, ainsi que nos reportages sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a juste à taper ZAD dans le moteur de recherche de polemixetlavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé. Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G.
101.5 FM.
Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
Bonjour et bienvenue au labo des savoirs. Amis auditeurs, amis auditrices, vous l'avez peut-être remarqué, mais ils y sont partout. Sur nos toits et nos jardins, sur les coques de smartphones, les parcs-mètres et certains panneaux de signalisation.